Bonjour. Alors, le propos de mon intervention était un peu de prendre le contre-pied de François, mais pas vraiment. Mais quand même, je vais probablement prolonger ces dernières planches, et puis on ne s'est pas concerté, mais probablement aussi prolonger le propos d'Éric Breton. Alors, si j'interprète mal ce qu'il a dit, il me le fera savoir sans problème. Ma chère Fleur, on peut y aller. Alors, c'est très mal commun, vous m'excuserez, je vais... Non, mais c'est bon. Ouais, mais il faut que les gens voient tout ça. Non, c'est bon, on va y arriver là. Voilà, vous inquiétez pas, voilà. Bon, en gros, je vais dérouler comme ça. Donc, la santé publique est bien intentionnée, et donc, nous voulons tous améliorer l'état de santé de la population. Alors, j'ai mis un tout en italique déjà pour vous taquiner un peu. Ce que je nous rappellerai, c'est que le courant dominant, c'est de parler en termes de facteurs de risque. C'est peut-être un peu réducteur, on y reviendra, mais le poids de la mortalité considérée comme évitable, ça vient d'être appelé, et assez surdéterminant dans la conception de nos politiques, il me semble. Ce faisant, on véhicule quelques normes de comportement, Eric a déjà dit ça, et ce sur quoi peut-être il est important de revenir, c'est avec une efficacité relative, voire des effets secondaires, et quand on a parlé du prix du tabac et du poids que ça représente dans certains budgets, vous voyez où je veux en venir. Alors du coup, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors. Numéro 1, notre mandat, c'est d'améliorer l'état de santé de la population. Et vous savez qu'on a une loi de santé publique depuis le 9 août 2004 qui dit que, notamment, l'enjeu de la politique de santé publique, c'est de prévenir les maladies, les traumatismes, les incapacités. Oui, mais c'est prévenir les maladies. Voilà, n'oubliez pas ça. Bon, quand même, l'information, l'éducation à la santé de la population, l'organisation de débats publics, voire sur les questions de santé, les risques sanitaires. Voilà. Et alors, la façon dont... entre guillemets, la santé publique autorisée pense le maintien de la santé, j'ai envie de dire, j'ai surtout pas employé le mot de promotion, vous comprenez pourquoi, c'est de raisonner en termes de facteurs de risque immédiats. Et alors, quand on prend les travaux de l'OMS sur les fardeaux de la maladie, c'est « burden of disease » pour ceux qui connaissent ce document, on nous dit gentiment que dans les pays occidentaux, vérifiez, tiens oui, ça veut dire que c'était un travail en cours, vous voyez, de ma part, bien sûr. C'est que le premier déterminant, c'est effectivement le tabagisme. Donc, François avait raison de choisir cet exemple pour notre petite mise en scène. Alors, devant tout le reste, ben oui, qui sont essentiellement, des facteurs de risque dits biologiques, hypertension artérielle, mais beaucoup comportementaux, l'abus d'alcool, l'excès de poids, les apports insuffisants en fruits et légumes, la sédentarité, la consommation de drogues illicites, mon Dieu. Mais c'est pas le tabac, vous avez compris, ça se surajoute au tabac. Bon, bref. Quand on est un petit peu plus moderne, qu'on traverse les États-Unis, plus moderne parce que c'est 2007 par rapport à 2002, voilà. Un papier dans une revue médicale prestigieuse qui s'intéresse à l'amélioration de la santé des Américains, enfin ce qui compte, des USA, on raisonne, là encore, en termes de mortalité prématurée, donc celle qui survient avant 65 ans, c'est la définition actuelle qui va changer. Alors ça serait la pollution, le mauvais accès aux soins, les conditions sociales défavorables, des prédispositions génétiques et... voilà, la palme, encore une fois, mais vous voyez, on passe de 5% à la pollution, 40% les conduites individuelles. Ne me demandez pas, parce que j'ai pas relu le papier, c'est pas bien, mais donc vous oublierez ce que je viens de vous dire. Ne me demandez pas comment l'attribuabilité est vraiment calculée. Parce que, voilà, là-dedans, il y aurait des doubles comptes que ça m'étonnerait pas, et comment on choisit la cause principale pour, comme par hasard, aboutir au poids surdéterminant des conduites individuelles. Là, je crois qu'il y a un débat, qu'on aura plus tard, épidémiologique, que j'ai pas suffisamment creusé, moi, et que dans ma corporation, je crois qu'on devrait creuser un petit peu plus. Voilà. Alors, et chez nous, bon, ben, voilà. Alors, il y a les 60 000 décès attribués au tabac. Bon, là aussi, comment on arrive à 66 000, faut regarder précisément. Et puis, il y a les 60 000 décès évitables du premier rapport sur la santé en France. Et les décès évitables, vous savez que c'est des morts prématurées, mais pour lesquelles on se dit, tiens, on a les moyens. Et puis, c'est bizarre, mais on les met pas en œuvre. Et, encore une fois, les deux tiers sont rapportés à des risques. Alors, j'ai mis individuel, c'est moi qui ai rajouté les guillemets, mais il n'y a pas de guillemets dans le rapport initial. Hein. Alors effectivement, c'est les individus qui adoptent des comportements. Mais est-ce que tous les comportements sont de la même probabilité ou alors sous les mêmes influences pour tout le monde? Ça, on peut en discuter. Il y a quand même un tiers lié au fonctionnement du système de soins et j'y reviendrai à travers une planche. Après, bon, on dépense pas beaucoup d'argent pour la prévention, mais c'était à l'époque avant qu'une peste n'existe. Vas-y. Alors, la loi du 9 août 2004, elle nous dit aussi que la politique de santé publique a pour objectif la réduction des inégalités de santé, vous voyez bien, et par la promotion de la santé. Ah, bon, d'accord. Et malgré tout, l'organisation du système de santé et ses capacités à répondre aux besoins de prévention, je fais les extraits qui me paraissent importants pour ce discours, mais donc, réduction des inégalités de santé et promotion de la santé. Youp. Alors, justement, quand on prend le spectre de la mortalité évitable, sur quoi on tombe? Bah, globalement, sur les comportements individuels à risque, ça tombe bien, voilà. Hein, alcool, tabac pour les voies digestives supérieures, le cancer du poumon chez les femmes, je pense qu'on devrait faire des diapos spécifiques pour les femmes sur les paquets de tabac. Les morts violentes, c'est l'alcool. Bon, vous avez compris que je charrie un petit peu. Donc, globalement... on revient avec François du congrès de l'Association européenne de santé publique et il était beaucoup question hein, dans beaucoup de sessions de ces déterminants. Voilà. Alors en anglo-saxon ça donne ça. Bref, les comportements individuels à risque. Youpi. Alors face à ça, le politique. Hein? Bah oui, c'est quand même intéressant de voir ça. C'est, voilà, les gens qui nous gouvernent, comment abordent-ils ces questions? Eh bien, globalement, sous l'angle, quand même, franchement, vous n'êtes pas raisonnable, quoi. Hein? Parce que j'ai cité, j'ai pas mis des guillemets, mais c'est pas moi qui ai inventé tout ça. En gros, Flageolet nous dit « des populations qui s'impliquent mal ou pas dans la prévention de leur santé ». Alors, j'ai rajouté les guillemets « prévention de leur santé » parce que je sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais globalement, voilà, préservation de leur santé, prévention, enfin bref, on se débrouille. Et du coup, pour ça, on enfonce le clou. Hein. On dit que l'enjeu, quand même, c'est une gestion active et responsabilisée par la personne, son capital santé, dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie. Hein. Vous soufflez, là, puis... voilà. C'est écrit comme ça, Omar. L'action de promotion de la santé, prévention des maladies, éducation thérapeutique, voilà. Et puis, voilà. Et l'action, ce qui est dit après, hein, c'est quand même, tout ça, c'est mieux si c'est déclenché par les professionnels. Donc c'est pas moi qui ris. La planche suivante. Alors du coup, ça me fait enfoncer un petit peu le clou, et j'emprunte aussi à l'ouvrage de Peretti Vatel, hein, qu'il a écrit avec Moati. Globalement, voilà, je suis un représentant de la santé publique. Hein, pendant des années, je pense que j'ai fait ça. Maintenant, je suis un peu plus vieux et j'essaye de me soigner sur le tard. Ce qu'on trouve dans cet ouvrage, hein, voilà, c'est la notion de droit à la santé doit être remplacée par l'idée d'une obligation morale pour chacun de nous de préserver sa santé. Une sorte de devoir public. Donc là, si vous avez pris un café, je ne sais pas si vous êtes très moraux déjà. Vas-y. Et du coup, voilà. Malgré tout, voilà, pointer quelques contradictions et quelques contrastes en fonction de l'appartenance sociale, notamment, hein. Voilà ce qui est rappelé par une de nos grandes maisons, c'est que la prévalence du tabagisme évolue de manière différenciée selon les groupes sociaux. Hein. Et effectivement, voilà, la prévention, ça marche chez les riches et ça marche moins bien chez les pauvres, si je fais dans la caricature. Hein. Et vous voyez que ça baisse chez les cadres professionnels intellectuels supérieurs, ça reste relativement stable chez les ouvriers, et donc, Eric, c'est pire que ce que tu as dit, et ça augmente chez les chômeurs. Là, c'est encore plus contrasté, c'est merveilleux. Voilà. Et alors, ce qui me fait rebondir voilà, sur le propos de François, c'est ce que citent encore une fois les amis Peretti, Vatel et Moati, hein. En 2000, ah non, c'est Serge Moati, c'est Jean-Paul Moati dans la revue du Nord, la Contact Santé. 10% des fumeurs les plus pauvres consacraient 25% de leurs revenus en 2000, et 5 ans plus tard, c'est 31%. Bon. Après, on a PNNS qui nous dit accessibilité, une alimentation saine. Vous voyez, on n'est pas une contradiction près. Bon, et ce que dit, bon, voilà, qui est assez vieux pour pouvoir écrire ce qu'il a envie aussi, comme moi. C'est les fumeurs pauvres que la lutte contre le tabagisme. Alors, j'ai rajouté serait parce que moi, j'ai pas la culture d'Eric. Enfin, je vais travailler, hein. Mais je veux bien travailler avec toi. Mais parce que est-ce que vraiment on a la preuve de beaucoup d'interventions efficaces pour ces publics spécifiques? J'aimerais bien être sûr. Enfin, en tout cas, si c'est dans l'approche préventive habituelle, j'en doute fortement. Du coup, voilà. Et il me semble que du coup, ce que nous faisons n'est pas anodin. Alors, François, on a parlé, hein, parce qu'il est tout sauf naïf, contrairement à ce que vous pourriez penser. Et donc, les inégalités de santé liées au comportement, à mon avis, exposent, ben, évidemment, hein, enfin, je dis à mon avis, c'est un avis largement partagé, probablement dans l'assistance, parce que, ben, vous l'avez vu, hein, ces comportements ne sont pas distribués de manière au hasard dans la société. En plus, ils sont profondément addictifs. Hein. Moi, j'ai eu la chance de ne pas fumer. Mais je connais des fumeurs qui me disent que arrêter, c'est compliqué. Et puis, vous en connaissez probablement. Hein? Voilà. Et puis, surtout, ça renvoie à des représentations et des normes décalées. C'est ce que je vais vous montrer une ou deux planches là-dessus. Et puis, ça oublie que quand même, si on fume, c'est pas parce que on va voir une photo qui nous dit « Ah, mince, ça donne ça !» qu'on va s'arrêter, quoi. Hein? C'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de la stigmatisation, bon voilà, j'emprunte aux travaux de la grande maison citée par Peretti Vatel. Hein. Voilà, les gens considèrent quand même que, alors c'est probablement un effet recherché, hein, mais que la lutte anti-tabac donne une mauvaise image. Alors, si c'était du tabac, ok, mais des fumeurs, c'est plus embêtant, de mon point de vue. De la même façon, pour la lutte contre l'abus d'alcool, ça stigmatise les utilisateurs plus que le produit, et 43% de la prévention d'une mauvaise image des personnes qui n'ont pas de bonnes habitudes alimentaires, voilà, ça marche pour les trois. Hein. Alors, ce qui fait dire à Peretti, Vatel et Moati, bon, de manière un peu emphatique, hein, mais j'aime bien, ça me permet de renforcer un petit peu mon propos et de le caricaturer, les conduites à risque seraient-elles devenues à ce point blâmables, révélatrices d'une infériorité morale, et la prévention participerait-elle à la dévalorisation, voire au rejet des personnes qui adoptent ces conduites? La première partie est emphatique, la deuxième l'est beaucoup moins, de mon point de vue. Surtout... Voilà, si on se redit, mais je cite encore une fois le petit bouquin de Peretti Vatel, que le risque majeur auquel beaucoup d'individus, et comme par hasard, qui se concentrent plutôt, entre guillemets, au bas de l'échelle sociale, je préférerais dire dans les milieux populaires, c'est pas être à la hauteur. Bon, voilà, hein, de pas être performant, le mot est pas employé, mais c'est ça que ça veut dire. Et que, en gros, voilà, homo economicus, homo rationalis, homo appelé comme vous voulez, enfin, bref, celui qui se comporte comme il sait qu'il devrait le faire, ben, il n'existe pas, il est probablement même pas parmi nous, et pourtant, nous sommes des spécialistes de prévention. Et en clair, si on adopte une attitude, c'est pas pour rien, c'est que on est conduit pour des raisons multiples, et qui sont pas seulement neurobiologiques à le faire. Voilà. Voilà ce que rappelle bon des travaux que j'ai découvert à cette occasion, hein, c'est que voilà, le tabac n'a pas le même sens pour tout le monde. Enfin, ça, je l'ai pas franchement découvert à cette occasion. Bon, alors est-ce qu'il faut aller, parce que ça, c'est des vieilles lunes des années 50 qui sont reprises par les auteurs. Donc, vous voyez, on peut aussi se taquiner à propos de sources a priori convergentes. Considérer le tabac comme partie intégrante de la culture populaire, un plaisir de la vie dont on ne saurait se passer, même, j'ai rajouté, surtout en cas de difficulté. Entre nous, je ne sais pas, hein, voilà. Mais du coup, s'il y a la réponse, tant mieux. Si elle n'existe pas, je crois qu'il faut la chercher, parce que ça, c'est des travaux qui sont anciens et qui sont anglais. Voilà. Tu connais ça? Bon, on en reparlera. En tout cas, il faut être un tout petit peu modeste sur la croyance que nous avons dans notre capacité à agir. Et probablement qu'effectivement, la boîte noire, on va mettre encore un peu de temps à la désosser et qu'il serait temps de regarder dedans. Voilà. Mais 34% des fumeurs estiment que les médias exagèrent les dangers du tabagisme. penser que les photos vont modifier leur attitude, très certainement. 22% jugent qu'ils diffusent des informations basées sur des résultats scientifiques qui ne sont pas fiables. Et puis je discutais avec mon voisin qui me disait, tu sais, ces chiffres, ben, je suis pas sûr qu'ils soient très valides. On vous dira pas lesquels. Les deux tiers des consommateurs quotidiens d'alcool, bon là c'est pas un sujet, mais relève que beaucoup de personnes boivent de l'alcool sans jamais en pâtir. Bon, les consommateurs de tabac diront exactement la même chose, bien évidemment. C'est pas moi, c'est les autres. Alors là, juste une petite planche. Pour dire, généralement, quand on parle de prévention, c'est bien, c'est une politique publique. Et le système de soins, il est de bon goût de dire que ça ne sert à rien. Bon, alors, évidemment, moi, je suis un hospitalier, donc du coup, je parle de ce qui m'intéresse, mais de ce qui me chagrine et de ce qui me questionne. Mon travail est un tout petit coup de sonde, il n'est absolument pas représentatif. C'était deux ensembles de consultations dans des hôpitaux publics de l'Ouest. Pour ceux qui savent où je travaille, vous pouvez assez facilement deviner où c'est. C'est un questionnaire posé avant la consultation à des personnes considérées comme en situation, on va dire, de fragilité sociale, parce que soit la CMU, soit en difficulté de payer leurs soins, comparé à d'autres. Bref, ce que vous retrouvez, alors on va juste regarder le tabac, bien évidemment, hein, c'est que on fume plus parmi les consultants qui appartiennent au milieu populaire que dans les autres. On a un peu moins souvent envie d'arrêter, mais quand même, un tiers de ces consultants aurait envie d'arrêter, voilà, il suffit d'en poser la question, hein. Bah oui, mais... et si oui, est-ce qu'une aide a été proposée avant? La réponse, c'est aussi souvent, mon propos est un tout petit peu ironique, parce que aussi souvent, voilà, hein, est-ce que ça va marcher, ça? Non, il faut mettre dans l'autre sens, mais aussi souvent, dans un cas que dans l'autre. Voilà, et puis la différence, elle est absolument pas statistiquement significative. Donc, sous-entendu, et en plus... Quand on a des opportunités d'intervention, éventuellement dans le système de soins, on les regarde tranquillement. Voilà. Mais attention, parce que on n'est pas en situation 2 non plus, hein. Voilà. Mais quand même, est-ce qu'on pourrait pas se mettre en situation? La suivante, ma chère Fleur. Alors, peut-être que une des questions que soulève le débat. Par rapport à mon introduction, centrée, comportement à risque et prévention de la mortalité évitable, en clair, préservation de la santé, plutôt au sens absence de maladie. Hein. Je suis arrivé un petit peu après le début du discours d'Éric Breton, mais enfin, j'ai l'impression que ça parlait un peu de ça. Ou est-ce que on cherche vraiment à promouvoir le bien-être, à renforcer les compétences et l'autonomie des personnes? Voilà, vous devinez quelle serait ma réponse. Et du coup, promouvoir l'arrêt du tabac, bah, évidemment, c'est pas bon pour la santé, je suis d'accord. Donc, il faut. Hein, et qu'on ait une politique publique qui soit un peu agressive, pourquoi pas, vis-à-vis du tabac. Mais voilà, avec une stratégie globale, François Bourdillon soulignait la place ténue de l'éducation pour la santé. J'en rajoute en disant, et alors là, en termes de promotion de la santé, on est vraiment loin du compte. Alors, la planche précédente me faisait dire, bah déjà, est-ce qu'on ne loupe pas des occasions d'intervenir dans le système de soins? Oui, j'ai fini, t'inquiète pas. Voilà, globalement, bon, c'est un lieu commun de dire que l'attention aux soins préventifs n'est pas la préoccupation première du système, un peu plus dans les soins primaires que dans le monde hospitalier. Mais du coup, prendre en charge tout le monde de la même façon, bah, c'est la meilleure façon de laisser pérenniser, voire d'augmenter les inégalités. Voilà. Bon, on peut en discuter. Du coup, j'ai l'impression que, évidemment, subventionner les traitements de substitution, c'est une bonne idée, sauf que j'ai écrit une grosse bêtise, me fait remarquer Omar, parce que les traitements n'en sont pas, au sens de la pharmacopée. Ce sont des substituts. Donc, ils ne sont pas régulés comme des médicaments. Pardon ? Alors, c'est un traitement. Ah, mais c'est bien, ils vont se battre. Bon, bah oui, donc, il y en a un qui me déstabilise juste avant d'entrer en scène, puis après, il y a l'autre qui n'est pas d'accord. Donc du coup, il y a probablement à discuter là-dessus. Non, non, mais attendez, vous allez faire après. Vous allez faire après. Non, non, le sketch, il faut le faire après. Il faut qu'il soit public. C'est passionnant. René, si tu as une idée, pour l'idée partagée, je la prends. Hein. Bon, bref. Bref, il faut accompagner ceux qui sont le plus en difficulté. Voilà. Hein. Probablement, il faut faciliter l'accès. Alors, je me rappelle avoir été dans une commission d'une autre grande agence. Donc, c'est pas la tienne, Pierre. Mais qui parlait de... Bon, faut-il subventionner ou pas? Et l'avis des économistes, c'était de dire, ah non, c'est pas bien. Et les mecs, quand même, vous... Bref, donc vous imaginez que je pouvais employer un vocabulaire fleuri, dans une ambiance pourtant feutrée. Enfin, favoriser l'accessibilité des structures d'aide au sevrage et des dispositifs d'aide au sevrage, je pense que ça mange pas de pain. Mais effectivement, c'est une opinion. Mais surtout, voilà, faut pas oublier que le tabac, c'est la manifestation d'un être au monde. Voilà, je suis un peu pompeux quand je dis ça, mais je dis simplement que voilà, ça fait partie d'habitudes de vie qui s'inscrivent du coup dans des conditions de vie. Et je nous rappelle les trois grands axes de lutte contre les inégalités sociales de santé, dont c'est un des objectifs de notre politique de santé publique, je vous le rappelle et je vous l'ai montré. Hein. Donc cette commission « Agir sur les déterminants sociaux de la santé », qui a produit son ouvrage en 2008, qui a été présenté en 2010, début de l'année, 2008-2010, dans notre beau ministère, c'est voilà, améliorer les conditions de vie quotidiennes, lutter contre les inégalités dans la partition du pouvoir de l'argent et des ressources. Bon, quand je vous dis les choses de manière aussi rapide, vous pouvez penser que c'est un peu irénique. Ça l'est beaucoup moins quand on rentre dans le détail du document. Document qui, lui-même, s'appuie sur des actions alors dans différentes parties du monde. Du coup, leur transposabilité est discutable. Mais chaque proposition qui est faite dans ce document est argumentée sur la base au moins d'une action dans un des pays du monde. Et du coup, c'est pas du tout aussi ironique que vous pouvez le penser. En tout cas, on ne luttera pas contre le tabac uniquement avec des IRM, ça c'est sûr. Et du coup, on peut en rester là, Fleur, parce que sinon, on n'a plus le temps de causer.